Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Elsa Mangage-Ferrache et je viens présenter le Musée national de costumes. Je veux remercier à Sophie l'invitation de venir ici présenter le musée où je travaille depuis 18 ans. Je m'excuse aussi de mes fautes françaises. Ça fait longtemps que je ne pratique pas le français, alors des fois j'essaie de traduire et je sais que certains mots ne sont pas corrects, alors je m'excuse en avance. Alors, le musée, je vais faire une présentation très petite de ce qui est l'univers du musée. Le musée, il appartient à la Direction générale du patrimoine culturel, qui fait la gestion directe de 23 monuments et palais du Portugal. Et il est installé dans un ancien palais, le palais Engeja Palmel. Et il est ainsi nommé parce qu'il a été possédé successivement par deux familles. Et il a été construit, c'est un bâtiment du XVIIIe siècle, en 1766, il a été construit. Il a été acheté par l'État portugais en 1975 pour y installer le musée. Alors le musée, il va ouvrir ses portes en 1977, avec une collection de 7000 pièces qui sont venues de la collection royale et qui étaient aussi le résultat d'une exposition qui a été réalisée en 1974 qui s'appelait le costume civil au Portugal. Alors c'est avec ce groupe de pièces que le musée ouvre ses portes. La mission initiale du musée, c'était la récolte de tout ce qui était costume civil, soit nationaux, soit internationaux, et aussi les accessoires et tout ce qui a un rapport direct avec le costume et la mode. Juste à côté du musée, il y a un grand jardin. Le palais, il est dans ce grand parc. C'est un parc botanique, ou parc botanique de Monteiro Mor. Et il occupe une grande surface, ce sont 11 hectares, et seulement 2 hectares à côté du musée, autour du musée, ils ont des jardins et des lacs. Ici, c'est le bâtiment principal et l'entrée du musée, la cour. Le jardin, j'ai mis quelques photos parce qu'il est très beau, je ne savais pas lesquelles photos choisir, il est très agréable. La plupart des personnes de Lisbonne ne connaissent pas ce jardin, parce qu'il est un petit peu, le musée il est un petit peu éloigné du centre touristique de Lisbonne, et pour y arriver, c'est pas si évident. Alors, il est un peu caché, c'est un petit secret qu'on a à côté du musée. Alors, le musée, il est petit, on a une petite équipe, nous sommes 29 personnes. Et on a la direction, le parc botanique, la gestion de collection. Et dans chaque département, soit en voie réserve ou restauration, on n'a qu'une personne. Moi, je suis la responsable des réserves. Mais on a une toute petite équipe. On a le service éducatif qui fait des visites guidées, le service de divulgation et communication, une bibliothèque très bonne et spécialisée dans la mode, dans l'histoire de la mode, dans les textiles. Et aussi le service administratif. Alors, l'inventaire. L'inventaire, on fait que on reçoit beaucoup de donateurs et maintenant on fait une très grande sélection des pièces. Parce qu'en ce moment, comme on a une grande collection, je vais parler après, on fait une grande sélection. Car on a déjà des typologies déjà très représentées. Par exemple, si on parle des culottes de dessous, on a déjà 300 exemplaires, par exemple. Les chapeaux des années 50-60, on a plus de 700. Alors, quand on reçoit une pièce, on voit d'abord son état de conservation et si elle vient combler une lacune, compléter la collection. Oh, si elle est représentative, si elle le dégriffe, si elle représente un créateur important dans l'évolution de la mode, et alors on l'accepte. L'inventaire, on a trois types d'inventaire, on fait trois types pour chaque pièce. On a des fiches en papier, comme vous voyez ici, c'est une méthode un peu rudimentaire, mais ça fonctionne bien. Après, cette fiche, elle va être introduite dans une base de données qui s'appelle Metrige, qui est aussi accessible au public en général, si vous voulez, certaines parties de l'information de la pièce, bien sûr. Et chaque pièce, ça c'est comme c'était son identité. Alors dans cette pièce, dans cette fiche, vous avez toutes les informations importantes à propos de la pièce. Et après faire cette étude et cette description de la pièce, on marque dans une étiquette de tissu le numéro d'inventaire. Il est brodé sur l'étiquette et normalement, on colloque l'étiquette dans un endroit accessible. Chaque fois qu'on va chercher une pièce réserve, on sait déjà où est l'étiquette et cela permet de voir tout de suite le numéro d'inventaire. Les réserves. Les réserves, elles sont dans un lieu où normalement on dit qu'on ne doit pas les mettre, c'est dans le grenier du palais. Alors cela cause des quelques problèmes au niveau du contrôle de la température et de l'humidité relatif. Et aussi, comme le palais il a été adapté pour un musée, on a beaucoup de problèmes avec beaucoup de petites salles, beaucoup de petites chambres, mais les réserves elles font presque 500 mètres carrés. Et on a trois types aussi de acconditionnement des pièces, soit suspendues, à plat ou roulées. Je vous montre quelques exemples. Ici, on a une petite partie de robes de baptême d'enfants. On a beaucoup. C'est aussi une typologie qu'on a déjà fermée. On n'accepte plus de robes de baptême. On a plus de 700 robes de baptême, c'est beaucoup. Ici, c'est la mise en réserve des habits du XVIIIe siècle. Dans le futur, ça va être une réserve visitable au public. Nous sommes venus en 2010 ici au Palais Galliera, aux réserves du Palais Galliera, voir comment étaient faites les réserves. Et ça, c'est un armoire qui est le résultat de cette visite. Parce que les armoires de toutes les réserves sont en bois. Alors, ils ont été achetés en 1975, ça fait longtemps. Maintenant, tout a échangé. Mais on a aussi des structures métalliques avec des rideaux en coton écru. Et cela, bon, j'espère que d'ici à un an ou deux, vous allez pouvoir voir ces réserves. La restauration, c'est un appartement. Maintenant, on n'a qu'une personne. La dame là-bas qui appartient au cadre des personnes du musée, les autres personnes, les autres filles, j'ai aussi une collègue qui est restauratrice. Elles font tous les travaux qui ont le rapport avec la récupération des pièces et sa restauration. Quand je suis entrée au musée il y a 18 ans, il y avait 8 personnes dans la restauration. Elles sont entrées en retraite. Elles sont extérieures. Ces collaboratrices ne travaillent pas et sont contractées. Ici, je montre quelques exemples du travail qui est fait dans la restauration. C'est un travail très minutieux qui prend beaucoup de temps. Et chaque fois qu'on pense à faire une exposition, il faut qu'on pense avance parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes à travailler sur les pièces. Alors, les collections. Les collections du musée, la collection du musée est composée par plus de 38 500 pièces. La plupart, ce sont des costumes féminins, la plupart des pièces, parce que l'évolution de la mode aussi, elle est plus visible dans le costume féminin. On a des costumes masculins et d'enfants. On a une très grande collection de dessous. Et aussi d'accessoires. À part ça, on a des jouets, on a des meubles, on a une petite partie de peinture. Qu'est-ce qu'on a en plus? Et bon, ça, par exemple, les accessoires font une grande partie des pièces de la collection. Les périodes qui représente la, que la collection représente, pardon, va du XVIIe à l'actualité. Alors, du XVIIe siècle, j'ai mis ici, mais normalement, ma directrice a dit qu'on a une collection qui commence dans le XVIIIe. Ça parce qu'on n'a pas beaucoup de pièces de XVIIe. On a une douzaine de pièces qui sont bien gardées. On ne les expose pas. Et jusqu'à l'actualité. Et quand je parle de l'actualité, je parle de maintenant. Des fois, on voit quelqu'un dans la rue et moi je pense, oh, ce sac, il était tellement bien pour la collection du musée. Parce que les personnes, elles associent encore le musée national de costumes à costumes anciens. Elles ne pensent pas que les pièces que tout le monde utilise aujourd'hui, d'ici à 150 ans, 30 ans, elles vont être des pièces très importantes pour nous et aussi pour faire l'histoire de l'évolution du costume. Alors je commence, je vais faire d'une façon chronologique cette présentation. On commence avec un corset du XVIIe qui est très bien gardé. Je passe, on a une bonne collection du XVIIIe, mais ça au contraire de toute la collection, on a plus de costumes masculins que féminins. Par exemple, cette robe, maintenant, elle ne sort plus, elle reste dans les réserves, parce qu'au niveau de sa conservation, elle est très très fragile. Ici, j'ai mis plivato parce que c'est un terme qu'on utilise au Portugal. Je ne sais pas si aussi en France vous utilisez plivato. J'ai eu beaucoup de difficultés de traduire les noms qu'on donne en portugais pour les noms que vous donnez ici en France. Alors, j'espère s'il y a quelqu'un qui sait plus de costume français que de traduire. Bon, si vous voulez, après, vous faites les corrections. Ici, on a l'Empire. Le romantique, on a aussi une bonne collection du costume romantique avec beaucoup d'exemples de robes. La tournure, la belle époque, fin de siècle. Comme vous voyez ici, on n'a pas beaucoup de costumes masculins. 1900, les années 10 et après 20. Avec eux, on a aussi beaucoup d'exemplaires des années 20. Il y a aussi beaucoup d'accessoires d'années 20. Je ne sais pas si je passe vite. Alors, des années 30 et 40. Ici, on commence à trouver aussi dans la collection des costumes avec griffes. Ici, j'ai traduit New Look. C'est une petite veste, je ne sais pas, en Portugal, on dit casaquinha. Alors, pour moi, c'était très difficile de traduire. Je ne sais pas comment vous dites ici. Kazakhin ? Ah, ok. Merci. Ici, j'ai mis une couturière portugaise, Canidinha, qui était dans les années 50. 50 est une personne très importante à Lisbonne. Ainsi que Ana Maravilha, ces deux exemplaires ici. Les femmes de Lisbonne cherchaient ces couturières parce que elle faisait les modèles qui étaient copiés des magazines de mode, surtout des copies des modèles que les personnes portaient ici à Paris, parce que Paris continue dans les années 50 à faire la mode comme un grand exemple. Et alors c'était ces deux couturières qui étaient très importantes au panorama de la mode de Lisbonne dans les années 50-60. On a aussi deux robes de griffées. Ici c'est l'actualité. Alors ce sont les trois stylistes portugais. José Carlos, il est déjà mort. Cette robe a été très importante parce qu'il a appliqué dans la robe Fernando Pessoa. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand poète portugais. Alors, ça a été très important, cette exposition qu'il a fait dans les années 80. Alors, les dessous, Ça aussi, c'est un petit exemple de ce qu'on a en réserve. On a beaucoup, par exemple, ça, c'est un ensemble de mariés. C'était une mariée, c'était la fille, ça appartenait à une grand-mère d'une fille qui nous a cherché pour faire le don. Et alors, c'était très agréable parce que chaque fois qu'elle va au musée, elle voit et elle est exposée. Et elle voit l'ensemble de sa grand-mère exposée. C'était son ensemble de mariés. Ça aussi, on appelle le mot français. Au Portugal, on appelle une matinée. Je ne sais pas si en France, vous appelez matinée. Oui. OK. Et un soutien-gorge de 2010. Alors, tout ce qui est récent aussi, on fait l'incorporation dans la collection. D'accessoires. J'ai essayé de mettre un petit peu de tout, mais c'était tellement beaucoup que ça a été très difficile de choisir. Les chaussures. Ici, ce sont des petites chaussures Mélissa, vous connaissez? Alors, ça aussi a une histoire drôle parce que quand je suis un jour allée à la crèche chercher ma fille, j'ai une petite fille qui avait ses chaussures portées. Alors, j'ai demandé à sa mère, j'ai perdu ma honte, j'ai demandé à sa mère, une fois que sa fille ne portait pas les chaussures, si elle pourrait faire un don au musée. Et l'année dernière, elle m'a cherché pour donner les chaussures et maintenant, on a les chaussures Mélissa. Alors, on a une grande collection de chapeaux, ça, je vous ai déjà dit, mais aussi d'éventails. On a une très, très grande collection d'éventails. Et bon, dans les expositions, on a une exposition permanente qui montre l'évolution du costume du 18e à l'actualité, mais qui est dans un système de roulement. On dit ça en France, oui. Dans 6 ans, 6 mois, on change les pièces qui sont dans l'exposition. Et aussi, on fait des expositions temporaires, soit avec d'autres institutions, soit avec des écoles de mode, des créateurs. Et on a une typologie d'exposition temporaire qu'on appelle la collection des tailles. Ce sont des noyaux de la collection du musée et qu'on présente. Par exemple, on a fait une exposition temporaire aux détails de fourrures ou de... par exemple, des chapeaux des années 30. Des fois, on prépare ces petites expositions parce que sinon, on n'a pas l'opportunité de montrer à tout le monde ce qu'on a en réserve. Je vais vous montrer quelques photos de l'exposition permanente. Je n'ai pas mis beaucoup, mais comme ça, vous avez une idée de ce que vous pouvez trouver si jamais vous allez au musée. Ça, c'est le Salon Nobre. C'est le salon principal du palais. On a mis ici le 18e siècle. Après, je n'ai pas mis l'Empire, mais j'ai mis le Romantique. Maintenant, on commence aussi à faire une restructuration de l'exposition parce que on a commencé à penser que des fois le circuit de l'exposition n'était pas très accessible au public, surtout qu'on a beaucoup de groupes scolaires. Et alors qu'on va commencer à changer le circuit et la façon que les costumes sont présentés dans l'exposition permanente. Si c'est le costume Belle Époque, les dessous, et ici j'ai pas mis les années 10 et 20, on commence au fond, on voit quelques exemplaires des années 30, et après ça termine dans l'actualité, on termine avec les années 2000. Et bon, ça ce sont les contacts. En bas vous avez le Metrijnet, c'est le site pour voir l'inventaire online, si vous voulez. Et bon, et c'est mon musée. J'espère vous trouver un jour là-bas. Je ne sais pas si vous avez des questions. Des corrections.
Une question par rapport à la recherche. Est-ce que vous êtes est-ce que vous avez un centre de documentation?
Oui, on a un centre de documentation. Maintenant, mais les personnes qui font les recherches, chaque fois qu'on prépare une exposition, ce sont les trois personnes qui appartiennent à la gestion des collections. Et maintenant, parce qu'on a venu ici voir l'exposition à Paris de Boutonner la mode, ma directrice a commencé, et c'est le travail que je viens à faire dans les semaines dernières, c'est l'étude des boutons, de la collection de boutons du musée, parce qu'elle a pensé que c'était aussi très intéressant de, dans quelques années, préparer aussi une exposition avec les boutons qu'on a. On a plus de 800 000 boutons. 800 000. Merci. Elle n'est pas si grande comme celle qui était présentée ici, mais en tout cas, pour notre univers, c'est bien. Oui, la bibliothèque, elle est très. Les personnes qui cherchent la bibliothèque, ce sont des étudiants de mode, surtout des fois des créateurs et des personnes qui sont en train de faire le doctorat et qui font des dissertations à propos de la mode, d'un créateur, de l'histoire de la mode. Des fois, on arrive à avoir cette information. Par exemple, si quelqu'un, il y a eu un don récent des gilets d'Empire, avec dedans, comment s'appelle cette partie dedans, la doublure. C'était en laine. C'était la première fois qu'on a vu ces exemplaires, parce que normalement, c'est en soie. Et ça, c'est en coton, mais c'était en laine dedans. Et ça appartenait à une famille du nord du Portugal. Et au nord, c'est toujours plus froid. Alors, c'est pour cette raison que c'était des gilets du 18e d'hiver qu'on n'avait pas dans la collection.
Les vêtements qui sont portugaises, qui sont en provenance.
Il y a quelques années en arrière, par l'apport, par exemple, à la mode que les personnes portaient ici à Paris. On est un peu éloigné, 10 ans, 20 ans, un petit peu. Et ça, on voit plus ça dans les années 50, 60, 70. Pas maintenant. À partir des années 80, c'est la même chose. Oui, on a une collection de costumes régionaux du Portugal, du nord au sud.
Et quelles sont les époques ça,
Années 30-40. Oui.
Et est-ce que vous avez des poupées de mode? Des poupées qui servaient à transmettre
Oui, on a une petite collection, je pense, de 30 poupées. Qui montre l'évolution de la mode de l'époque médiévale jusqu'aux années 20, parce que ça appartenait à deux sœurs qui étaient couturières et que dans ses temps libres faisaient ces petites achetaient les poupées et elles faisaient les costumes pour habiller les poupées. Oui. Elles sont des années 50, mais elles sont habillées avec du costume de l'époque médiévale jusqu'aux années 20. Image, non, je n'ai pas. Non, malheureusement, je n'ai pas. Oui.
Et est-ce que vous intéressez aux ouvrières, aux personnes, aux couturières qui font les robes.
Oui, des fois, on a aussi une collection de machines de couture, oui, et par exemple, on accepte aussi tout ce qui est machine et équipement qui fait le costume. Par exemple, il y a 2 ans, nous avons reçu une machine qui fait des chaussures qui, dans l'époque, je pense que c'est une machine des années 40, et à l'époque, les personnes faisaient les chaussures à la maison. Et alors, quelqu'un, je me rappelle un peu l'histoire parce que je suis allée à la maison voir la machine. Quelqu'un a acheté une maison et dans la cave, il y avait cette machine. Il y avait aussi les instructions dans le tiroir. Et il y a aussi une lettre qui nous a indiqué que la machine a été achetée en Angleterre. Alors, parce qu'on a vu la facture de l'achat. Alors, chaque fois qu'une pièce entre dans le musée, on essaye de savoir son histoire, parce que c'est très important de savoir qui l'a portée. Des fois, on demande aussi des photos. Si c'est une robe de mariage, une robe de baptême, ou dans une fête par exemple, on essaie d'avoir toujours un document avec qui illustre la personne qui l'a portée. Des fois, les robes de baptême, on a plusieurs photos d'enfants parce que les robes passent de famille en famille et surtout les bébés les portent dans chaque fois qu'ils vont faire son baptême.